Salut!
On est le lundi 29 avril, il est 17h et vous êtes sur l'émission No Girls in the Cypher avec notre invitée du jour, Manon Labrie. Salut,
salut.
Ça va?
Ouais, ça va.
Et alors, ouais. Manon Labrie qui a écrit le livre Riot Girls, chronique d'une révolution punk féministe et qui est sorti en quelle année?
2016.
Ok, donc il y a 3 ans.
Ouais.
Et du coup, Manon Labrie, t'es chercheuse? Si
non.
Je ne m'abuse.
Non, non, j'ai cherché, mais...
Est-ce que tu as trouvé?
Non, mais c'est le but, c'est de ne pas trouver. Ouais.
Donc, il me semble que tu es docteur en civilisation nord-américaine,
voilà, ouais.
Et que ta thèse portait sur les relations entre culture mainstream et sous-culture underground à travers l'étude du cas de la sous-culture punk féministe nord-américaine.
Ouais, bien joué.
Du coup, est-ce que tu veux présenter un peu ce que c'est les Riot Girls pour les gens qui ne connaissent pas?
Oui, bah alors c'est un mouvement qui est né aux États-Unis au tout début des années 90. Ce serait une erreur de le réduire à un mouvement exclusivement musical, puisque c'est un mouvement qui s'est aussi exprimé sous d'autres formes, notamment la forme fanzine. Et c'est une forme d'activisme culturel. Voilà, comme ça, ça va un peu au-delà du format musique, quoi. Jeunes femmes qui ont été mues par trois sources de frustration, on va dire. L'inadéquation avec le monde et les idées capitalistes. L'inadéquation aussi avec les scènes underground à l'époque où elles les fréquentent, qui sont à leurs yeux devenues trop macho, et l'inadéquation aussi avec le féminisme tel qu'elle le percevait à l'époque, en fait, comme trop académique, trop universitaire. L'une d'entre elles dit que leur but c'était de rendre le punk plus féministe et le féminisme plus punk. Et je trouve que ça résume assez bien leur exigence. Et donc c'est un mouvement qui s'est catalysé autour de une poignée de groupes au début. Puis après ça a fait beaucoup d'émules en très peu de temps. Donc comme je le disais, autour aussi d'un grand nombre de fanzines qui se sont démultipliés encore plus rapidement que les groupes à une époque où il n'y avait pas internet.
Et toi, comment t'as eu connaissance de leur existence? Qu'est-ce qui t'a attiré?
Eh bien alors moi, c'est justement grâce à internet. En France, je pense que ça a été compliqué d'avoir accès à l'info avant qu'internet soit vachement développé. À mon avis, à moins d'avoir un super disquaire qui avait quelques fanzines ou des trucs comme Maximum Rock'n'Roll qui parlaient de ces groupes, etc., c'était à mon avis compliqué dans les années 90 d'être au courant, contrairement à l'Angleterre, où on en parlera peut-être tout à l'heure, ça a plus rapidement essaimé. Moi, du coup, en plus à l'époque j'étais quand même jeune, donc j'étais pas encore dans ce genre d'écoute. J'ai découvert ça au début des années 2000, on va dire, par le biais en fait des Ladyfest, qui sont des festivals féministes la plupart du temps en autogestion, qui existent toujours depuis donc 2000. Le premier était d'ailleurs à l'initiative de certaines des Riot Girls de l'époque 90. Par un système de liens, je suis tombée là-dessus et puis ça m'a passionnée. C'est aussi le moment où j'ai pris des cours à la fac sur la culture féministe, etc. Et du coup là, j'avais le truc parfait qui mêlait musique punk et féminisme. Et du coup, je me suis passionnée pour le sujet. Et puis j'en ai fait donc deux masters et une thèse. Ouais.
Donc t'es sur Toulouse et t'étais à la fac du Mirail.
Oui, je peux guère le cacher avec l'accent. Oui, j'étais au Mirail, ouais. J'ai tout fait au Mirail.
Du coup, en plus, il y avait ce terreau ouverture d'esprit, militant, je sais pas.
Au moment où j'étais en master ou en thèse, mais en effet, je faisais partie d'un collectif informel. On a organisé 3 Ladyfest sur Toulouse. Enfin, moi, j'ai surtout participé à 2. Il y avait des choses qui se faisaient. C'était assez neuf, les Ladyfest, et c'était vachement enthousiasmant parce que C'était un concept qui était destiné à voyager, en fait. Les premières meufs qui ont organisé le premier Ladyfest à Olympia, elles ont clairement annoncé que c'était un concept qui était destiné à être repris, traduit, dans plein de pays, dans plein de contextes, et que c'était ça qui ferait la force du truc, et ça a assez bien fonctionné. Et du coup, voilà, en 2005-2006, c'était pas mal, ça commençait à pas mal se répandre en Europe, et c'était assez, comment dire, stimulant.
C'est à ce moment-là que vous avez fait le festival à Toulouse, 2005-2006
Je crois, on en a fait un, alors je sais plus exactement, 2005 c'était à Nantes, je crois.
Ok.
2006 à Toulouse, 2009.
C'était où à Toulouse ?
À Toulouse, c'était, on essayait de faire ça dans des lieux, voilà, un peu... qui nous laissait en tout cas une certaine liberté. Donc à l'époque, il y avait le petit London qui était un lieu où, enfin qui est plus le même hein, maintenant.
Oui.
qui était un lieu où voilà, on pouvait faire des soirées de soutien avec un esprit vraiment chouette. On a fait ça au Clan D aussi, qui était encore ouvert au
moment. Un squat.
Ouais, au moment des soirées de soutien. Qui a fermé. Non, il était à, pas très loin d'Arnaud Bernard.
D'accord.
Ouais. C'était un squat assez mythique qui a tenu.
Ah oui, avec beaucoup de slam aussi.
C'est
le groupe Enterré sous X.
Très possible.
Qui
oui,
beaucoup
exact.
Là-bas.
Oui,
bah, voilà, ouais. L'histoire du slam ouais. qui est devenue beaucoup plus institutionnelle maintenant.
Mais... Ouais, et du coup, pour nous, c'était un super lieu, vraiment. C'était vraiment chouette de faire des soirées là-bas. Ouais. Et après, on a fait des trucs dans des lieux un peu plus commerciaux, mais qui nous laissaient quand même avoir la main sur le tout. Alors, j'ai plus les noms des bars en tête, mais...
Ça s'appelait Ladyfest à Olympia aussi.
Ouais.
Donc, Olympia, c'est une petite ville aux États-Unis.
Ouais, c'est ça. Olympia, c'est une petite ville du Nord-Ouest qui, à l'époque des années 90, là, est hyper vivante en matière de musique parce que bah, c'est toute la zone qui est une sorte de vivier quand même. Voilà, c'est les débuts du grunge, mais comme le grunge, c'est encore flou comme catégorie, il y a plein de choses qui partent dans tous les sens, plein d'essais, plein de gens qui font pas le choix du commercial. Mmh. Et Olympia, donc c'est un peu un creuset. C'est là qu'il y a un label qui s'appelle Kay Records, qui est un label assez mythique pour toutes les scènes underground, punk. C'est aussi, en fait, une ville universitaire. Et dont l'université n'est pas une université classique, puisque c'est une université d'État, mais qu'en plus, elle est orientée vers soit des programmes politiquement très à gauche, surtout aux États-Unis, soit sur des projets plus artistiques, etc., sur des parcours plus artistes. Donc elle draine une population qui est déjà bien sélectionnée. et du coup, voilà, la culture musicale à Olympia, ça se fait vraiment partie de l'identité de la ville, si on peut dire. Et pourquoi on disait ça?
Par rapport au Ladyfest,
ouais.
Du coup, c'est...
Bah, et voilà, et donc, c'est devenu aussi, voilà, dans les années 2000, compte tenu de tout le passé, Riot Girls, du coup, ça faisait quand même 10 ans que cette culture, elle avait bien, monopolisé la ville quand même, parce que, encore une fois, c'est une petite ville et que l'histoire des Riot Girls, elle a été pas mal... déjà, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont suivi. Donc, Olympia a attiré aussi ce public-là à cette époque-là. Et en 2000, c'est aussi parce que les protagonistes du mouvement Riot étaient encore sur place, qu'elles ont fait ça là, et que aussi, je pense, elles avaient des structures qui leur permettait de le faire, des appuis d'un label aussi, Kill Rock Stars, qui s'est créé au moment, du coup, en Riot Girls.
Tout ça en autoprod, quoi.
Oui, si je ne m'abuse, ouais. Et alors, je pense qu'elles ont fait, c'est sûr qu'elles ont fait des soirées de soutien. Le festival était payant. Je ne sais plus combien c'était les tarifs, mais ça ne devait pas non plus être exorbitant, mais elles ont fait des bénéfices colossaux, je crois. J'avais été très surprise. Mais après, elles ont tout reversé, du coup, à une assoce, je crois... pas un planning familial, mais l'équivalent ou quelque chose comme ça. Ouais, et puis je pense qu'il y a eu un deuxième, mais ensuite, pas l'année d'après, mais c'était vraiment destiné à aller ailleurs, en fait.
Donc une asso,
je sais plus du tout.
Tu peux dire un petit peu planning familial, ce qui est...
Là-bas, en gros, c'est aussi, comme c'est... Alors, peut-être pas dans l'état du Washington, mais quoi que si, je pense, je connais pas exactement. Mais toutes les politiques concernant l'IVG, tout ça, ça dépend des états, c'est complexe. Et en tout cas, alors moins peut-être dans les années 2000, mais dans les années 90, c'était des gens et des lieux qui subissaient beaucoup d'attaques des lobbies antiféministes. Ça allait jusqu'au meurtre, quoi. Il y a eu plein de meurtres sur des personnels soignants qui pratiquaient l'IVG ou qui, voilà. Non, mais je dis ça, je suis même pas sûre qu'elles aient donné à ce genre d'assaut, mais je sais qu'elles ont donné, qu'elles ont pas fait de bénéf avec ça et qu'elles l'ont pas réinvesti non plus sur un autre festival.
Ok. Ouais.
Mais s'il faut, j'ai dit une grosse bêtise, c'était pas du tout un planning familial.
Et toi, t'as eu l'occasion d'y aller à Olympia?
Ouais, moi j'y suis allée il y a pas longtemps.
Ouais.
Il y a 2 ou 3 ans. J'ai juste, enfin bon, c'était un peu mythique, donc j'ai fait un détour.
Ouais.
Et ben oui, alors c'est toujours, ben en effet, c'est vraiment une petite ville, hein. Mais on sent toujours, d'une part avec le nombre de disquaires à la rue, parce qu'il y a 2 rues, que la culture musicale c'est vraiment essentiel là-bas. Et puis il y a toujours des groupes. Il y a toujours des groupes féministes qui émanent de ça, là. Je pense à, ben, je vous ai parlé de Vex. Il y a aussi, ouais, Broken Waters. Enfin, voilà, des groupes, un autre qui m'échappe. Je vais pas retrouver sur le moment. Donc c'est encore toujours bien présent, cette histoire-là.
Ouais. Et toi, t'as rencontré certaines personnes?
Alors, j'en ai rencontré qu'une. C'est la chanteuse de Bratmobile, Alison Wolff. Parce que quand j'ai fait mes recherches, il y avait encore de la part. Alors déjà, c'était compliqué de trouver leur contact. Donc voilà, Alison Wolff, il se trouve qu'elle a participé à un Lady Fest à Bordeaux. Donc je suis allée là-bas pour la rencontrer, l'interviewer. Mais globalement, il y avait quand même un regard un peu méfiant vis-à-vis de tout ce qui est universitaire. Parce que c'est un mouvement qui a eu pas mal de déconvenues avec les médias mainstream, et que c'est un mouvement qui considère un peu, en tout cas à l'époque, au moment où j'ai commencé mes recherches, qui considérait un peu l'université comme un second mainstream. Et donc, du coup, je préférais, en fait, voilà, j'ai pas osé les contacter, j'ai préféré bosser sur des matériaux, soit sur des interviews qu'elles avaient déjà données, soit sur des paroles de chansons, des trucs comme ça, des sources secondaires aussi. Et c'est pourquoi je ne les ai pas rencontrées.
Ok. On va écouter un morceau de Bikini Kill, donc un des groupes les plus emblématiques du mouvement Riot Girls. C'est quoi le titre du morceau?
Le morceau, c'est Magnet.
Ok, et tu peux dire de quoi ça parle?
Vous allez voir, il y a pas beaucoup de phrases, mais en gros, c'est je ne t'appartiens pas, fuck.
Ok.
Et c'est, on disait par ordre chronologique qu'on allait présenter les
morceaux. Ouais, c'est ça. En fait, Bikini Kill, c'est le groupe qui s'est formé le premier. C'est aussi celui qui a été le plus couvert par les médias mainstream. C'est un groupe très frontal. Mais voilà, oui, chronologiquement, c'est le premier groupe à s'être formé et à avoir fait des émules après. Mais...
Yes. Toujours No Girls in the Cypher. On est avec Manon Labrie, auteure du livre Riot Girls. Et Manon Labrie, alors pourquoi t'as décidé après ta thèse d'écrire ce livre?
En fait, c'était une aventure éditoriale un peu particulière. En fait, on m'a dit, enfin, on m'a proposé de faire quelque chose avec ma thèse, en fait. C'est quelqu'un qui bossait à la Découverte, qui s'appelle Elsa Dorlin, que vous connaissez peut-être. Mmh. J'ai écrit un manuscrit qui, en fait, est sorti en second. J'ai écrit un autre livre, en fait, qui s'appelle Pussy Riot Girls et Mitière, qui est sorti chez X. Et la première chose que j'ai faite avec ma thèse, c'était ce manuscrit-là, en fait. Mmh. Et puis pour des raisons, enfin voilà, finalement, du coup, ça n'a pas pu sortir à la Découverte pour des raisons complexes. Et donc, à la Découverte, j'ai proposé une autre chose qui était plus sur un ton bien plus libre que ne l'était le précédent manuscrit, qui était plus, voilà, une réécriture de ma thèse, mmh. Sur un ton un peu plus académique, avec, des trucs, une forme un peu plus classique, on va dire, avec...
Et sur Riot Girls, tu t'es lâchée.
Et sur Riot Girls, je me suis un peu plus lâchée, oui.
Avec les petites... avec le langage, ouais, déjà plus familier, quoi. Et sur, par moments, enfin, un mix. En fait, pour moi, c'est un mix entre du langage universitaire et du langage plus habituel, plus quotidien. Et du coup, ça permet de mieux rentrer dedans.
Ouais.
Et aussi plein de petites allusions.
Oui, voilà, bon, c'est pas toujours drôle, mais moi, je me suis éclatée à l'écrire.
du coup, peut-être un peu... Il y a même des petites phrases qui font écho au milieu féministe. Genre, le jour où on sera avec des bières véganes et je sais pas quoi.
Oui, on m'en a parlé, celle de celle-là, déjà.
Et toi, du coup, tu... T'es encore dans les collectifs, Ladyfest, t'es encore active?
Et non, en fait, pour les Ladyfest, il y a pas mal de forces vives de l'époque, soit qui ont bougé, soit qui ont qui avaient envie de faire autre chose. Donc le collectif informel, il s'est un peu dissous, par la force des choses et par les gens qui circulent et tout ça. Et c'est vrai que depuis, non, je me suis pas réinvesti comme je l'avais fait à l'époque. Après, c'est vrai que pendant la thèse, j'avais le nez vraiment dans tout ça. J'avais pas forcément envie derrière de reparler de ça. Enfin, voilà, c'était... Donc, non, là, en ce moment, c'est vrai que... Enfin, après, si, c'est pas vrai, parce qu'en plus, avec le bouquin, ça m'a permis de rencontrer des gens cool, qui faisaient des chouettes choses, mais pas forcément à Toulouse. Et puis, voilà.
Dans quel réseau, du coup, tu diffuses le bouquin?
En fait, il se diffuse un peu tout seul, parce que c'est quand même une grosse maison. Ouais. au niveau distribution, c'est vrai que j'ai rien fait. Honnêtement, c'est un peu comme ça s'est passé là, quoi. C'est des gens qui ont envie de m'inviter pour tel événement ou comme ça, et puis c'est super parce que ça me permet de voir ce qui se fait un peu aux quatre coins de la France, et c'est assez passionnant.
Et d'ailleurs, le livre, dans quel magasin ou sur quelle plateforme on peut l'acheter?
Amazon, bien sûr. celui-ci, il se trouve
Terra Nova. Vraiment,
ouais, Terra Nova, Ombre Blanche.
Mais moi, je crois que je l'avais acheté à la Fnac même, j'avoue.
Ah oui.
Il est à la médiathèque de Toulouse aussi.
Ouais, il est à la médiathèque.
Ouais, il est chez Flory, il est chez. Je pense qu'il est à l'autre rive aussi. Et X, je pense qu'il est à Terra Nova.
Je peux te le dire parce que du coup je l'ai essaimé perdu, enfin j'ai perdu celui de la médiathèque, donc je l'ai racheté pour la médiathèque, je l'ai réemprunté, reperdu, oui, je l'ai acheté, je l'ai filé à ma tante, je l'ai filé à une copine, ben voilà.
Du coup je parlais de l'autre qui est un peu moins diffusé parce que c'est une plus petite maison. Okay. Et là pour le coup je pense qu'il est à Terra Nova, mais je sais pas s'il est ailleurs, voilà. Yes. Ouais, pourquoi on disait ça?
Parce qu'on t'a demandé qu'on pouvait trouver le livre. Alors, est-ce qu'on s'écouterait pas un petit morceau de Bratmobile?
On peut.
C'est quoi le titre?
Chronologiquement, le titre, c'est You're Fired, je crois.
Ouais.
Chronologiquement, c'est le deuxième groupe à s'être formé. Et c'est assez rigolo comme la manière dont elles se sont formées, en fait, parce que c'est deux jeunes femmes qui étaient un peu au sud d'Olympia, à Eugene. Qui ont fanfaronné, qui fréquentaient déjà Bikini Kill et tout ça, qui échangeaient, qui correspondaient, qui avaient elles aussi un fanzine. Et elles ont fanfaronné en disant qu'elles avaient un groupe, et puis un jour elles se sont fait inviter pour un concert. Et du coup elles ont été obligées de créer le groupe, et puis ça a été, c'est assez symptomatique voilà, des groupes Riot Girls qui se sont formés comme ça.
À l'occasion d'un concert.
Ouais, ou de, voilà, par des gens qui n'avaient pas forcément fait de musique et qui finalement après se sont lancés quand même. Mm-hmm. Voilà.
Yes.
They say the Silicon Valley boys are lonely and so are you. But I don't care, 'cause no one cares about girls who are lonely too. Now you know how to make a deal. You want a girl then with sex appeal, but you can't even bring your wallet on a date. Pretend to care, but it's too late. Alright, okay, you work, so yeah, you win.
No Girls in the Cypher sur Canal Sud 92.2, la radio la plus punk du monde. Ah. Je faisais des blagues parce que tout à l'heure il y avait des ondes téléphoniques, avant il y avait des problèmes. Bon, il y a toujours des trucs qui se passent à chaque fois qu'on est là. Et là on est avec Manon Labrie et on parle des Riot Girls. Et Manon, est-ce que les Riot Girls existent encore et quelle est l'évolution de...
Alors, je dirais oui, mais pas forcément sous la même forme. Et c'est tant mieux, c'est ce qu'elle voulait d'ailleurs au départ. Mmh. En fait, l'idée de départ, c'était aussi de ramifier un peu dans tous les sens, d'essaimer, de se transformer, de pas se laisser figer, voilà. Ouais, j'appelle ça un peu un féminisme interstitiel, dans le sens où voilà, dès qu'il y a une espèce d'espace qui se libère ou qui est déjà libre, on s'y insère, et puis en fait, on n'est pas obligé d'y rester, et surtout, dès qu'on se laisse figer, il faut en sortir. Mmh. Et donc, dans cette perspective, on a parlé des Ladyfest déjà, ça c'est carrément une évolution directe et voilà, une transformation de ce courant-là. Mmh. Mais je pense aussi, par exemple, aux Girls Rock Camps, comme je te disais, qui sont des espèces de petites colonies de vacances pour très jeunes femmes, hein, puisque là c'est entre 7 et 17, 18 en général. Ça, en général, ça dure une semaine. Ça a commencé en 2001 à Portland, dans la même région, plus ou moins, quoi. Donc, c'est destiné à des très jeunes femmes. Et pendant une semaine, en fait, on leur apprend, même si elles n'ont jamais fait de musique de leur vie, le but, c'est de créer une chanson en groupe. Elles font plein de petits groupes, voilà, sur par exemple une centaine de jeunes femmes aient créé autant de formations musicales, 3 ou 4, à 5, à 6. Donc elles apprennent à jouer ensemble pendant une semaine, et le but étant de faire leurs chansons devant les parents à la fin de la semaine. Mais là où c'est vachement intéressant aussi, c'est que ça sort un peu du cadre de la musique aussi, puisque la moitié de la journée est consacrée à des ateliers. Alors soit en lien avec des thématiques féministes, quoi. Donc ça peut être, oui, estime de soi, autodéfense, ça peut être aussi ingénierie du son, enfin vraiment des basiques, quoi. Mais je trouve que c'est pour moi une des initiatives et un des rejetons des Riot Girls parmi les plus intéressants, parce que ça s'attache vraiment à prendre le problème à la racine. Puisque si aussi on manque cruellement de groupes de meufs, c'est que on pousse pas forcément les très jeunes femmes vers des instruments électrisés, électrisés, je sais pas.
Ouais.
Électrique, voilà. Ni vers des batteries et tout ça. Et donc là, alors que la demande est très certainement là, quoi. Et donc là, je trouve que c'est une des initiatives, moi, qui me parle le plus. Et après, donc, comme je disais,
Elles ont quel âge, juste les filles, du coup, ceux qui vont sur ce camp?
Elles ont entre 7 et 17 ans, je crois. Ouais. Enfin, ça dépend des camps, parce qu'alors depuis, en fait, il n'y en a plus qu'un. Il y en a, je crois, 90 qui se tiennent annuellement aux États-Unis, mais aussi au Canada. Enfin, il y en a aux quatre coins du monde.
Ça continue d'exister, du coup.
Ouais, ça continue d'exister. Ça a énormément de succès, à tel point que maintenant, elles ont fait des écoles de musique, carrément, je crois, à l'année. Des women rock camp, okay, pour des femmes un peu plus âgées. Ça a hyper bien marché et ça continue de très bien marcher.
C'est plutôt des parents avertis, du coup, qui vont amener leurs enfants là-bas, quoi.
Pas forcément. Enfin, j'en sais trop rien, pour être honnête. C'est difficile de le savoir. Ça dépend des villes, ça dépend de. Ouais. Après, c'est des semaines très onéreuses. Je crois que c'est la moitié, en fait, des effectifs.
Et pris en charge par Pôle emploi. Non, je rigole.
Non, mais ne paye pas le truc. Et d'accord, je pense que c'est pour ça que c'est très onéreux pour les autres.
Ok, donc ça s'équilibre.
Il n'y a pas d'équivalent en France pour l'instant.
Mais je crois qu'il y avait une tentative à Paris, mais ça avait l'air assez obscur comme truc. C'était en tout cas ce qui a maintenant, du coup, une Girls Rock Camp Alliance, qui est un peu un gage de sérieux et de du truc, et je crois que c'était pas répertorié là-dedans. Je sais pas où ça.
Mais je crois que j'étais tombée sur le site, et il y a peut-être des camps dans certains pays d'Europe. Je crois qu'il y en a.
Il y en a
en Europe du Nord et tout, mais juste en France, il y avait rien, quoi.
Non, je te dis, je crois qu'il y a eu un essai, et puis
c'est. De toute façon, on est un peu à la ramasse. En France, par rapport à ça, j'ai l'impression.
Et en même temps, tout est relatif. On est très évolué par rapport à d'autres endroits aussi.
Genre quoi ?
Bah, je sais pas, mais il y a quand même la possibilité de se questionner, de faire des choses, tu vois, artistiquement, culturellement, de monter des associations beaucoup plus facilement qu'ailleurs.
Ouais.
Où ça peut coûter très cher, où voilà, il y a qu'une dizaine d'assos qui vont se monter dans certains pays, tu vois. Je sais pas. Mais du coup, toi, tu disais, Yu-Yu, que Riot Girl, tu le voyais comme influence des gens qui proclament l'influence Riot Girl.
Non, c'était plus Manon qui disait ça.
Je disais que, par exemple, en fait, autant il n'y a plus... Il y a plus ce qu'il y avait au début des années 90, c'est-à-dire des collectifs aux États-Unis, par exemple, des collectifs aux États-Unis et en Angleterre, qui... étaient davantage des organisations on va dire plus politiques, avec des buts, avec des réunions hebdomadaires, avec des buts bien précis, des actions, des concerts, des trucs. Ça n'existe plus à ma connaissance. Ou alors c'est pas, en tout cas, un truc généralisé, c'est pas des gens qui correspondent d'un collectif à l'autre, etc. En revanche, il y a plein d'initiatives personnelles, et il y a plein de groupes qui revendiquent cette influence, qui s'inscrivent vraiment dans la ligne droite de toutes ces idées. C'est vrai.
On écoute un morceau de Evans to Betsy.
Ouais, le troisième groupe à s'être formé.
Ouais.
Non, je sais pas si c'est le troisième, en tout cas le troisième, quoi, auquel on peut accéder facilement, qui s'est formé aussi à Olympia. C'était un duo. Bon, après, quand je dis chronologiquement, c'est-à-dire que c'est quand même un mouchoir de poche. Hein. On est entre 91, entre début 91 et mi-91. Quoi.
Et c'est un peu la période, c'est la période ciblée par...
Par le bouquin, là, ouais.
Il se passe beaucoup de choses dans cette période.
Ouais, il se passe énormément de trucs, ouais.
Est-ce qu'on se lirait pas un petit bout du manifeste des Riot Girls?
On peut.
Parce que tu disais que du coup, il y avait la volonté de ne pas être figé par rapport à la récupération des médias potentiels.
C'est pas le truc qui transparaît le plus de ce manifeste-là, mais on peut en parler après aussi.
Ouais.
En effet.
Et de ne pas être figé aussi pour ne pas bloquer bloquer les choses, quoi.
De pas être figé aussi pour pas restreindre l'accès à des gens qui en fait, il y a eu une pléthore de manifestes parce que il y avait cette envie d'ouvrir un max le mouvement à tout le monde, en fait, à n'importe quelle jeune femme, et donc d'essayer de le délimiter le moins possible pour que chacune puisse juste se retrouver dans le fait de vouloir prendre possession du processus créatif, en fait. Parce que l'idée majeure des Riot Girls, c'est ça, c'est de se faire entendre, alors que la société tend davantage à faire taire, surtout les jeunes filles, plus encore que les jeunes garçons, de produire plutôt que de consommer, tout ça. Donc ça, c'est l'idée vraiment centrale, et ce processus... En fait, là, je vais du coup lire... je vais lire. Parce que nous, les filles, avons terriblement besoin de livres et de fanzines et de disques qui nous parlent, dans lesquels nous nous sentons incluses et que nous pouvons comprendre dans nos propres termes. Parce que nous voulons faire que ce soit plus facile pour les filles de voir, écouter nos travaux mutuels, pour partager des stratégies et se critiquer ou s'applaudir. Parce que nous devons nous approprier les moyens de production pour pouvoir créer nos propres significations. Pardon. Parce que considérer notre travail en tant que connecté à nos amis politiques vraie vie est essentiel si on veut comprendre comment ton impact reflète, perpétue ou perturbe le statu quo. Parce que nous jugeons que la fantasmagorie de la révolution instantanée macho avec des flingues n'est qu'un mensonge irréalisable, destiné à nous laisser rêver plutôt qu'à devenir notre rêve, et que donc nous cherchons la révolution dans nos propres vies, chaque jour, en imaginant et en créant des alternatives à la manière chrétienne, merdique et capitaliste de faire les choses. Parce que nous voulons et avons besoin d'encourager et d'être encouragés face à toutes nos insécurités, face au rocker garçon bedonnant de bière qui nous dit qu'on ne sait pas jouer de nos instruments, face aux autorités, entre guillemets, qui disent que nos groupes zin, etc. sont les pires des États-Unis et qui attribuent toute validation, succès de notre travail à une hype de filles qui prennent le train en marche. Parce qu'on ne veut pas s'assimiler aux standards d'autres, entre parenthèses garçons, qui établissent ce qui est ou n'est pas de la bonne musique ou punk rock ou de la bonne littérature, et que donc on doit créer des forums où on peut recréer, détruire et définir nos propres visions. Ouais, je passe un petit peu parce que c'est un peu long. Parce qu'on est en colère contre une société qui nous dit « fille égale stupide, fille égale mauvaise, fille égale faible ». Parce qu'on refuse de laisser notre colère réelle et légitime se faire diluer ou se retourner contre nous via l'internalisation du sexisme, tel qu'on peut le voir dans les jalousies entre filles et les comportements typiques d'auto-sabotage. Parce que je crois de tout mon cœur, esprit, corps que les filles constituent une force spirituelle révolutionnaire qui peut et qui va changer le monde pour de vrai. Oui, ce que je disais, c'est que le processus créatif, il est aussi le signal du fait que il y a une révolution individuelle qui s'est engagée. Et là, on l'a vu, elles disent que voilà, elles refusent l'idée de révolution instantanée, macho avec des flingues. L'idée, si c'est un mouvement révolutionnaire, et ça l'est, c'est un mouvement qui considère que la révolution et qui espère une révolution patiente qui reposera sur l'addition, la multiplication et l'addition de toutes ces révolutions individuelles qui passent par la prise de parole et le processus créatif, en fait.
Et la transformation aussi de soi et de...
Oui, voilà, oui.
Du coup, il y a la volonté que ça soit ouvert à tout le monde, mais dans les faits, c'est pas forcément le cas. Donc, il y a eu après des critiques constructives, quoi.
Ouais, c'est ça.
Il y a un SMH aussi.
Ouais. C'est-à-dire que c'est un mouvement auquel on a reproché dès le départ, en fait, de s'adresser qu'à un public blanc, issu des classes, en tout cas pas populaires.
Qui avait le luxe de faire le choix d'aller à l'Olympia, par exemple, et de faire de la musique.
Voilà, mais ce qui s'est passé après... même s'il est vrai qu'au début, les premiers collectifs, par exemple, ils étaient quasi exclusivement blancs. Les tout premiers, je parle, les deux ou trois premiers. Ensuite, il y a eu, mais très très rapidement, quoi, dès la première année de l'existence de collectif Riot Girls, il y a eu une critique constructive aussi de Girls of Colors, et en fait, en disant que ça a été un mouvement qui a été exclusif, on efface toute cette histoire où, justement, après, le mouvement s'est construit et surtout, je pense, à partir de 94, etc., c'est construit aussi avec cette critique interne. Mmh. Et donc, voilà, ce que j'explique un peu dans le bouquin, c'est un peu tricky, comme on dit, de dire que ça a été un mouvement qui s'adressait à un public très homogène.
Ouais, alors que si tu mets en lumière, justement, les Girls of Color, tu parles plus de... Enfin, voilà, ça rétablit peut-être un peu le truc, quoi. Mmh.
Pour ça, il y a une jeune... Enfin, il y a une femme qui était dans les Riot Girls dès le départ et qui a ensuite beaucoup travaillé sur cette question, qui s'appelle Mimi Tianguyen et qui a vraiment produit une critique hyper constructive du truc. Enfin, je vous engage à la lire. Elle a aussi... alors, je sais pas si c'est traduit, par contre, je pense pas. Elle a aussi fait un zine compilation au milieu des années 90 qui s'appelle Evolution of a Race Riot, qui est vachement bien aussi.
Et ça y est. On s'écoute un morceau de Huggy Bear.
Oui, alors ça, du coup, c'est le groupe anglais qui a commencé à entrer en contact avec notamment Bikini Kill. Et c'est par eux que ça s'est un peu, que ça a fait tache d'huile en Angleterre, que des collectifs sont créés, des fanzines aussi. Et donc, c'est la quatrième roue de la charrette. De la chariote.
Pourquoi c'est la quatrième? C'était Huggy Bear et on est toujours dans l'émission No Girls in the Cypher avec Manon Labrie. Moi j'avais une question parce que à la fin du livre t'évoques un peu le hip-hop féministe et en disant que a priori il peut y avoir des liens entre la culture punk féministe et le hip-hop et du coup est-ce que t'as envie de parler un peu de ça, des liens que tu vois entre le hip-hop et le punk parce que nous ici on est assez hip-hop dans cette émission.
Ouais, justement, moi j'y connais vraiment rien au hip-hop, donc okay. j'ai pas à me risquer là, mais ce que je vois, c'est que... Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a des... Mais encore une fois, je connais pas du tout l'histoire, donc je préfère pas dire de sottises, mais qu'il y a des points de rencontre assez évidents, je pense. Et je vois aussi que, ben voilà, ben justement, je parlais de Mimi Tien Nguyen, elle est devenue universitaire, et elle a organisé aux États-Unis une conférence sur justement les liens entre culture hip-hop et culture punk féministe. Je vois qu'il y a des choses dans ce sens qui se multiplient. Je vois aussi que, ben voilà, par exemple, le Femme Cis Fest à Saint-Etienne, c'est.
Ouais.
C'est un peu dans la même veine aussi, DIY.
Ok, on va écouter un morceau de Excuse 17 qui s'appelle.
This is not your wedding song.
Ok.
Et c'est pas un groupe qu'on associe hyper fréquemment aux Riot Girls, même si c'est un groupe d'Olympia. Il a été mis plutôt vers les groupes queercore parce qu'il était, c'était un groupe signé avec Chainsaw, qui était un label un peu plus queercore que Riot Girl. Mais bon, c'est exactement les mêmes. Enfin voilà, moi je vois vraiment un lien très très fort.
Ça veut dire quoi, queercore?
Ouais.
Ah, queercore, oui, pardon. C'est un mouvement qui a précédé les Riot Girls et qui, en gros, fonctionne un peu de la même manière, c'est-à-dire avec des groupes de musique, des fanzines. Des conventions, moins de collectifs je pense, mais je dis peut-être une erreur, et qui est né ouais, donc vers 85, qui a pas mal inspiré les Riot Girls aussi, et qui est axé ben, voilà, sur des queers qui se reconnaissaient pas ni dans le monde du punk, ni dans la culture gay mainstream, ou lesbienne mainstream. Et je renvoie, pour les gens que ça intéresse, au film qui est sorti il n'y a pas longtemps, sur au docu, ouais, de Yoni Leiser.
On en a parlé ouais, la dernière fois, et je disais que j'arrive pas à le trouver. Donc,
ouais, il est compliqué à trouver.
Toi, tu l'as?
Ouais, mais moi c'est oui. Je ne peux pas donner le lien. On m'a dit de ne pas le donner.
Ah, d'accord. Ok.
Il y a des droits, y a pour les droits de...
Ouais.
De...
Oui, le mieux, c'est de l'acheter, quoi.
Ouais, le mieux, c'est de l'acheter, après, bon.
Well,
Salut, salut. On est toujours dans No Girls in the Cypher. C'est Vera, je suis l'intervenante secrète de l'émission. Et j'ai une question de dernière minute. Moi, j'ai lu Riot Girls et je venais pas du tout de cette tendance musicale à la base. Et en fait, juste après, j'ai voulu faire un groupe de punk rock et je me suis mis à la batterie.
Parfait.
Je crois que ça a bien marché sur
c'est,
moi.
C'est idéal comme parcours.
Et du coup, j'avais un peu une question sur ton parcours à toi, justement. Comment t'en es arrivée là? Comment t'as été amenée
Moi, je me suis mise... je suis arrivée au punk assez tard aussi, au final. J'étais plutôt sur les scènes grunge. J'ai découvert cet univers via des copains et des copines qui m'ont fait découvrir des groupes comme les Distillers, par exemple. C'est le premier vraiment qui m'a fait voir du punk de meuf engagé. Et puis après, je suis tombée sur Bikini Kill. C'était en interne, au milieu de plein de groupes de mecs qui me parlaient pas forcément. Et puis, c'est du coup comme ça que j'ai continué à fouiller. Même au départ, en fait, je trouvais ça difficile d'écoute, en fait, quand je suis arrivée. Parce que le grunge était quand même plus mélodique, moins agressif pour les oreilles, etc. Et au début, j'avais du mal. Et en fait, ça fait partie de ces albums qu'au début, on nous laisse un peu... perplexe ou collé à la chaise ou je sais pas, et puis finalement c'est devenu vraiment une passion quoi, et du coup j'ai creusé dans le sens de groupes de punk, de meufs féministes je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais
du coup c'est devenu un peu une passion et t'as voulu en faire un objet d'étude
c'est ça, je trouvais que c'était joindre l'utile à l'agréable. Et oui, c'est ça. Ouais. Et puis ça, enfin, j'avais de toute façon envie de creuser. Et puis plus j'ai creusé, et plus j'ai trouvé que c'était infini et que c'était hyper novateur aussi musicalement et le propos, on l'avait pas beaucoup entendu dans la musique avant. Et puis comme je disais, il y a tout l'aspect fanzine aussi. Bon, alors, à l'époque c'était un peu compliqué de mettre la main sur les fanzines. Maintenant, c'est peut-être plus facile, en tout cas, de tomber sur des extraits sur Internet, tout ça. Mais il n'y avait pas que la musique, quoi. Il y avait aussi tout pendant...
Pour ceux qui ont envie de creuser, il n'y a pas longtemps, il y a France Culture qui a fait une série documentaire sur le punk où t'es intervenu. Du coup, c'est LSD, la série documentaire. Et donc, si vous allez sur le site de France Culture, vous pouvez écouter les podcasts. Je crois qu'il y a 4 épisodes. Et il y en a un qui aborde la question du féminisme dans le punk.
Exact.
Est-ce que sinon t'as des films à conseiller là comme ça
Alors sur les Riot Girls, il y a en français, il y a pas grand chose. Il y a le docu qu'avait passé Arte à une époque qui s'appelle Riot Girls quand les filles ont pris le pouvoir. On peut discuter du titre. Il y a aussi... Alors après, il y a un documentaire sur Kathleen Anna, qui est la chanteuse de Bikini Kill.
The Punk Singer.
Voilà, qui est bon... Bon, il est vraiment axé sur ce personnage-là, donc, mais il y a des images d'archives chouettes. Puis il y a des extraits sonores, etc. Et il y a... Ça m'échappe, mais il y a le titre d'un truc de Lucie... Same, T-H-A-M-E, qui est sur Vimeo, gratos, mais je sais plus comment il s'appelle, mais je pense que si on tape Riot Girls, Lucy Same. Voilà.
Du coup, on balance Sleater-Kinney.
Ouais, on peut. Sinon, il y avait Vex qui est plus contemporain, c'est comme vous voulez.
Comme tu veux.
Sleater-Kinney, c'est le groupe qui a fait la jonction un peu entre les années 95 et les années 2000.
Ouais.
Et Vex, c'est un groupe actuel, donc c'est à vous de choisir. Closing out, I'll never be the same.
Walking in the rain, gotta figure it out.
Vous êtes toujours sur No Girls in the Cypher. On est avec Manon Labrie, auteur du livre Riot Girls aux éditions Zone. Donc, on vous le conseille vivement. Et on va faire un petit agenda pour terminer l'émission. Donc, ce samedi, il y a une soirée de soutien aux Gilets jaunes sur le rond-point de Sesquières au nord de Toulouse. Ça commence à 21h30 et il y aura notamment le groupe Sociopark de Steph Artaud qui était venu dans l'émission. Donc, je rappelle que les podcasts de l'émission se trouvent sur le site de Canal Sud. On a aussi le Facebook No Girls in the Cypher. Et donc, Sociopark, c'est du hip-hop électronique qui vous emmène dans un univers assez particulier, je vous laisse découvrir. C'est aussi des gens qui font de la vidéo et qui sont en résidence à la Cartoucherie pour le film Hawaï. Le 11 mai à Roule-ma-Frite, il y a la grosse soirée Garage Party avec Trolls qui était venu dans l'émission, donc un groupe de punk féministe toulousain. Les Trolls, il y a plein d'autres groupes, il y a du hip-hop, du punk et après de la techno toute la nuit. Tarpin Flambant, donc hip-hop d'inspiration punk aussi justement un petit peu. Lamine, Dacroulab, Sociopark encore et un petit peu de rap aussi, rap, trap avec Iris, avec Zeta aussi. Avec l'après-midi, une course de caddie et plein de spectacles et ateliers, enfin des trucs un peu fous quoi, et bien sûr des frites, puisque c'est au garage Roule ma frite à Ramonville qui promeut l'utilisation d'huile de friture pour les voitures, et c'est aussi un endroit où vous pouvez réparer votre voiture moins cher qu'ailleurs, en autonomie aussi. Là-bas, il y a des ateliers méca meuf pour apprendre. Pour apprendre à réparer sa voiture, pour apprendre la mécanique quoi. Et ensuite, le 17 mai, on retrouve Zeta, la rappeuse toulousaine Zeta, à Vabre-l'Abbaye, en Aveyron, en première partie de Billy Breloque, la rappeuse du 92. Billy Breloque qui sera avec tout son groupe de musiciens. Et donc ça va déboîter. C'est organisé par le 12 Studio. Et puis Manon, du coup, tu as des dates le 17 mai et le 13 juin. Donc 17 mai à Toulouse, à la salle du Cap, et le 13 juin à Paris. Est-ce que tu peux en parler un petit peu?
Écoute, le 13 mai, c'est avec mon groupe là pour le coup, qui s'appelle Nomic Today, comme la chanson. Le 17 mai, c'est à la salle du Cap. Il y a d'autres groupes, mais j'ai oublié, non, je suis vraiment désolée. c'est un peu nul. J'aurais dû réviser. Et le 13 juin, c'est à Paris, au Cirque Électrique. Et c'est en fait une journée un peu thématique, puisqu'il y aura deux présentations de bouquins. Le mien et un autre dont j'ai oublié le nom. C'est vraiment lamentable, voilà. Et donc, on jouera le soir avec No Milk Today aussi.
Ok, du coup, on va se quitter sur le son que tu nous as passé de No Milk Today.
Ben, si vous voulez.
You better watch out. I'll give you some.